France Culture.
Politiques agissent sur l'économie. Alors, est-ce que le grotesque en politique va déboucher sur une économie grotesque? 8 heures sur France Culture. Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Interdire tous les écrans avant 6 ans, 7 Français sur 10 sont pour, mais le plan d'action gouvernemental est bloqué depuis des mois. Une information de la cellule d'investigation de Radio France.
À une semaine du mouvement Bloquons tout, comment s'organise-t-il? Exemple avec des retraités très impliqués en Isère.
Nous retrouverons notre correspondant à Pékin pour le défilé militaire géant, aujourd'hui devant 26 chefs d'État, dont les présidents russes et nord-coréens.
Sur le Mercosur, la France est-elle impuissante? Ce sera le billet politique de Jean Lémarie dans un quart d'heure. La Commission européenne doit présenter le texte de l'accord aujourd'hui.
Nous vous parlions cette semaine de l'interdiction du téléphone portable dans les collèges, une nouveauté de la rentrée. Et chez les plus jeunes, quel usage des écrans? Fin avril, un comité d'experts préconisait une interdiction large pour les moins de 6 ans, pas seulement dans les lieux qui accueillent les petits, car les écrans altèrent durablement la santé et les capacités intellectuelles, écrivait-il. Eh bien, les Français partagent cette opinion. 7 sur 10 sont pour les interdire avant 6 ans. C'est le résultat d'un sondage confidentiel commandé par Matignon, que vous dévoile ce matin la cellule d'investigation de Radio France. Marie Dupin, ce sondage devait, selon vos informations, servir de point de départ à un vaste plan d'action du gouvernement, mais qui semble aujourd'hui suspendu.
Oui, les femmes comme les hommes, les jeunes comme les seniors, et ce, quelle que soit leur classe sociale, selon ce sondage confidentiel commandé par Matignon, tous demandent des mesures de régulation pour protéger les enfants des écrans. Un sondage qui devait initier un vaste plan d'action gouvernemental avec, comme première étape, une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers des écrans pour les enfants auprès du grand public. Mais d'après nos informations, ce plan, élaboré en réunion interministérielle début avril, est suspendu. Aujourd'hui, gelé. Il visait pourtant à mettre en œuvre les recommandations d'un rapport alarmant remis par des experts à Emmanuel Macron en 2024. Parmi ces experts, Servane Mouton, neurologue, elle était présente à la réunion gouvernementale en avril.
Il nous a semblé qu'une belle énergie constructive et de remise en mouvement était palpable, avec le délai d'un mois déjà pour faire des propositions concrètes de mise en application par les différents ministères présents, etc. Et puis depuis, rien. Les faits sont là, les parents s'en inquiètent, les professionnels de santé s'en inquiètent, nombre d'enseignants s'en inquiètent. Pourquoi il n'y a pas d'action? C'est quelque chose qui, je crois, nous dépasse.
Alors Marie, vous avez enquêté. Pourquoi ce plan n'a-t-il pas été lancé?
Eh bien, plusieurs sources au sein des administrations et des ministères évoquent un blocage au niveau de l'Élysée qui a repris la main sur le dossier, comme nous le confirme le Haut Commissariat à l'Enfance, initialement pressenti pour piloter le plan d'action. L'Élysée ne nous a pas répondu, mais la ministre du Numérique, Clara Chapaz, assure quant à elle qu'une campagne de communication sur les dangers des écrans est toujours à l'étude et qu'une réunion avec les experts de la commission sera organisée dès que possible.
Marie Dupin de la cellule Investigation de Radio France. Guillaume Erner en parlait à l'instant. Souvent présent sur les téléphones des jeunes, ChatGPT, cet outil d'intelligence artificielle devenu incontournable, proposera un contrôle parental dans le mois à venir. Les parents pourront lier leur compte avec celui de leur adolescent, a précisé l'entreprise américaine OpenAI. Annonce faite alors qu'aux États-Unis, des familles ont accusé l'agent conversationnel d'avoir encouragé leur enfant à se suicider, Pierre Roper.
ChatGPT a tué mon fils, affirmait il y a une semaine la mère d'Adam Rain, un adolescent américain. Après sa mort, en avril, les parents de ce dernier ont en effet découvert de longues conversations entre le jeune homme de 16 ans et le chatbot, dans lesquelles ce dernier confiait tout son mal-être. Loin de le décourager face à ses pensées suicidaires, ChatGPT aurait donné des instructions détaillées selon les parents sur la façon d'effectuer une pendaison, allant jusqu'à expliquer le fonctionnement d'un nœud coulant et à suggérer à l'adolescent, le jour de sa mort, de rédiger une lettre d'adieu. La famille Rain a donc porté plainte fin août contre Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Normalement, les modèles d'IA sont entraînés à ne pas fournir d'instructions pour se faire du mal, mais il est possible de les contourner ou que ces dernières s'affaiblissent à mesure que la conversation s'éternise. Dès la fin du mois, OpenAI a donc annoncé de son côté qu'elle allait renforcer ses garde-fous. Hier, l'entreprise a mis en place ses premières mesures. Dès le mois d'octobre, les parents pourront connecter leurs comptes avec ceux de leurs enfants de 13 ans ou plus pour contrôler l'utilisation qui est faite du chatbot de conversation. Les parents pourront notamment recevoir des notifications dès que ChatGPT détecte un moment de détresse. L'entreprise, enfin, a annoncé qu'elle comptait prendre d'autres mesures dans les mois à venir, sans préciser lesquelles. Selon une étude américaine, 70% des 13-18 ans ont déjà utilisé l'intelligence artificielle générative et près d'un quart des parents sont convaincus que leurs enfants n'ont jamais utilisé ce genre d'outils quand les concernés affirment le contraire.
Le coût de la rentrée augmente. Il s'élève à 3227 euros en moyenne en France pour un étudiant non boursier. C'est 70 euros de plus qu'à l'année dernière. D'après le baromètre de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, publié ce matin. La piste de la radicalisation islamiste semble écartée. Le motif serait privé à Marseille, dans l'attaque au couteau qui a fait 5 blessés hier après-midi, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. L'assaillant a été tué par la police. Si le sort de François Bayrou semble scellé à entendre les oppositions, avec le vote de confiance prévu lundi prochain à l'Assemblée, la colère ne faiblit pas. Le mouvement Bloquons tout, prévu le 10 septembre, dans une semaine, s'organise. Une journée de mobilisation avec de nombreux blocages donc à travers la France. Parmi les participants, des jeunes, des salariés, des chômeurs, mais aussi des retraités comme ceux que vous avez rencontrés en Isère, Justine Leblon.
Depuis le début du mois d'août, Jamila et Michel se réunissent régulièrement avec d'autres habitants en banlieue de Grenoble. Jamila, 68 ans, est une enseignante à la retraite, longtemps engagée syndicalement. Elle a aussi participé à la campagne législative pour le nouveau Front populaire. Aujourd'hui, elle a peur de qui pourrait arriver au pouvoir en 2027.
J'ai pas envie de me voiler la face. Il y en a un rassemblement national très actif. Il pourrait gagner et je n'ai pas envie de vivre cette expérience. Effectivement, je m'appelle Jamila. J'ai vécu du racisme. Étant donné que je suis née en France, que j'ai toujours étudié en France, je me sentais complètement française. Et en fait, je me suis rendu compte que certaines personnes me considéraient comme une personne à exclure parce que j'avais des origines maghrébines.
Michel, lui, a 79 ans. Il a enchaîné les petits boulots par le bouche à oreille à l'étranger. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à vivre avec sa retraite.
Je vais avoir 80. Bon, je travaille encore, quoi. À mi-temps, parce que le corps, il suit pas, là. Parce que j'ai une retraite de 750 euros, plus la complémentaire, ce qui me fait 1100. Mon loyer, il est de 500 euros, déjà. Donc, enfin... c'est vite fait, quoi.
Le retraité isérois a participé à de nombreuses manifestations depuis mai 68. Le dernier tournant, c'est en 2017, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir et baisse les APL. Michel rejoint les Gilets jaunes et s'installe à l'hiver 2018 sur l'un des ronds-points du mouvement.
On a construit des cabanes et on a passé Noël comme ça. Et puis petit à petit, le mouvement s'est effondré parce qu'il y avait trop de répression. J'ai même chargé, vous imaginez, j'avais 73 ans. J'ai chargé les gendarmes, faut le faire quoi. Et je me suis pris un flashball dans le mollet. Puis c'était dur de tenir tout l'hiver.
Et pourtant, Michel continue de s'engager aujourd'hui avec l'expérience des Gilets jaunes.
Il faut s'en inspirer, notamment des erreurs qu'on a commises. Sur le plan des relations comme ça avec les autres personnes, on s'est un peu isolé. Il n'y a pas eu justement cette préparation qu'on fait maintenant.
Comme quoi, par exemple ?
On a commencé un travail de tractage, on va sur les marchés, on va aussi vers les entreprises. Après, nous ne savons pas ce que ce mouvement va donner. Mais en tout cas, ça fait des embryons de mobilisation qui, un jour, certainement, seront nécessaires pour avoir une société meilleure.
Sans savoir pour le moment si le mouvement tiendra au-delà du 10 septembre.
Justine Leblon, et tous les matins jusqu'au 10 septembre dans le journal de 8h, nous donnerons la parole aux participants. Dans cette ambiance particulière se tient le probable dernier Conseil des ministres ce matin à l'Élysée pour le gouvernement de François Bayrou. Autour de la table, plus personne ne semble croire au miracle. Chacun, chacune pense déjà à la suite, à commencer par Emmanuel Macron, Rosalie Lafarge.
Cette fois, il ne peut pas ne pas être prêt, soupire un centriste. Le président sait ce qui va se passer, ou en tout cas ce qui risque très fortement de se passer lundi. Il doit préparer l'après. C'est pour ça qu'il a convoqué hier au déjeuner François Bayrou et les chefs des partis au pouvoir. Il les a invités, raconte un participant, à travailler avec les socialistes pour tenter d'élargir l'assise gouvernementale. Il les a appelés aussi à se serrer les coudes. Le politologue directeur de recherche au CNRS, Romain Pasquier.
Même s'il y a une défaite en quelques jours, il faut que cette défaite soit relativement cohésive. C'est-à-dire qu'on n'étale pas les divisions dans le camp présidentiel. Pourquoi ? Pour préparer l'avenir. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit véritablement décidé d'offrir sur un plateau un Premier ministre à la gauche. Et donc, c'est aussi pour évoquer des possibilités d'un autre gouvernement pour la suite.
Encore faut-il trouver celui qui le pilotera, ce gouvernement. Et ils sont plusieurs autour du président à croiser les doigts pour qu'Emmanuel Macron ne mette pas des semaines à nommer le cinquième Premier ministre de son second quinquennat. Traîné, c'est risqué, appuie le politologue Pierre Alaurent.
Parce que, très vite, l'effet boomerang fera qu'on s'interrogera non plus sur le Premier ministre, mais sur celui qui nomme les Premiers ministres. Et donc, la question de la démission du président de la République sera posée, et pas uniquement par LFI. On voit déjà que beaucoup d'interlocuteurs, y compris dans le bloc central, posent cette question. Le responsable sous la Ve République, c'est le président de la République.
Un président qui, à ce stade, l'assure, législative ou présidentielle anticipée ne sont pas à son ordre du jour. La question, c'est jusqu'à quand ?
Il n'y aura plus de thon en conserve dans les cantines scolaires, prévient l'agglomération de Mont-de-Marsan, comme huit villes avant elle, dont Lille, Paris et Rennes. Un arrêt temporaire par crainte de la contamination au mercure après l'alerte lancée par des ONG. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le classe parmi les 10 substances les plus préoccupantes pour la santé publique.
8h10, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Les images se veulent fortes. Pékin organisait aujourd'hui un défilé militaire géant pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, 80 ans après.
Oui, le président chinois Xi Jinping a prévenu la renaissance de son pays et selon lui, inarrêtable. Et Sébastien Berriot, vous avez suivi la parade sur place. Une véritable démonstration de force.
Oui, c'est avec une nuée d'hélicoptères survolant le ciel de la place Tiananmen que débute ce défilé millimétré avec plusieurs centaines de véhicules blindés, des dizaines d'avions accompagnés de régiments entiers. L'objectif est de montrer que l'armée chinoise n'est plus celle d'il y a 10 ans lorsqu'un défilé similaire avait été organisé pour les 70 ans de la fin de la guerre. À l'époque, l'armée chinoise était présentée comme vieillissante, incapable de rivaliser avec les États-Unis. C'est tout le contraire que le régime communiste a voulu montrer ce matin en dévoilant ses dernières nouveautés, notamment ses avions furtifs embarqués, ses nouveaux drones sous-marins en forme de torpilles et la dernière version de son missile balistique intercontinental. Une modernisation que personne ne conteste. Et évidemment, dans ce contexte, tout le monde a les yeux tournés vers Taïwan, que la Chine souhaite réunifier. Mais cette fois, dans son discours, Xi Jinping n'a pas évoqué cette question, se contentant de plaider en faveur de la paix.
Un défilé, Sébastien, devant les présidents nord-coréens et russes notamment.
Oui, il y avait 26 chefs d'État tout à l'heure pour assister au défilé, mais le régime chinois a fait en sorte que le monde retienne une seule photo de la matinée sur le balcon de la cité interdite, face à la place Tiananmen, juste au-dessus de la grande photo de Mao, Xi Jinping entouré des deux dirigeants les plus bannis de la planète, Vladimir Poutine à sa droite et Kim Jong-un à sa gauche. Le leader chinois offre aux deux hommes une exposition internationale inédite, une présence qui sonne comme une provocation pour les Occidentaux.
Sébastien Berriot, correspondant de France Culture à Pékin. Nous ne voulons pas d'occupation militaire, rétorque le maire de Chicago au président des États-Unis. Donald Trump veut envoyer des forces fédérales dans la ville. Un trou à rat, la capitale mondiale du meurtre, selon lui. Des forces déjà envoyées à Los Angeles et Washington. Le président qui assure qu'une frappe américaine a touché un bateau transportant de la drogue. Il venait de quitter le Venezuela. 11 narcoterroristes ont été tués, affirme Donald Trump. Quand des Indonésiens attaquent une multinationale suisse, leur île est menacée de disparition à cause du changement climatique et de la montée des eaux. Ils reprochent aux géants du béton Holcim ses rejets massifs de gaz à effet de serre. À Genève, Jérémy Lanche.
Officiellement, Pulau-Pari est une petite île de 42 hectares au large de Jakarta, mais à cause du réchauffement et de la montée du niveau de l'océan, sa superficie se réduit quasiment à vue d'œil, explique Daniel Tillmans. Il va suivre l'audience aujourd'hui pour l'entraide protestante suisse qui soutient la plainte des habitants de Pulau-Pari.
Leur île a déjà perdu 11% de sa surface en 5 ans et pourrait avoir disparu aux deux tiers en 2050. Donc ils subissent largement les conséquences des changements climatiques alors qu'ils n'y ont pas contribué. Donc ils ont décidé décidé d'identifier les responsables et de leur demander de prendre leurs responsabilités.
Mais pourquoi s'attaquer à Holcim ? Après tout, la multinationale suisse n'est pas présente en Indonésie. Oui, mais la fabrication de ciment et de béton est responsable à elle seule de près de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, trois fois plus que l'aviation. Et en tant que numéro un du secteur, Holcim est de facto l'une des entreprises les plus polluantes de la planète. Les plaignants demandent donc qu'elle paye pour les dégâts à Pulau Pari.
Ils demandent une indemnisation proportionnelle aux dommages causés par le changement climatique sur leur île, une participation financière aux mesures de protection et une réduction des émissions de CO2 de 69% d'ici 2040 par rapport au niveau de 2019.
Holcim, de son côté, estime qu'elle s'est déjà engagée vers la décarbonation de son activité en réduisant, assure l'entreprise, de moitié ses émissions depuis 2015. Si la justice suisse décidait de valider la plainte, ce serait une première mondiale et qui ouvrirait à coup sûr la voie à la multiplication de procédures du même